France Inter.
Bonsoir et bienvenue dans l'écho de l'été, cette dernière émission de cet été 2023, chaque samedi. Depuis deux mois, nous avons essayé de réfléchir aux enjeux économiques qui ont un lien avec notre vie très concrète, l'alimentation, le climat, le transport aérien, les autoroutes et bien d'autres enjeux qui ont été les nôtres au cours de l'année écoulée ou qui sont devant nous. Et avec des invités ce soir, nous allons évoquer les questions d'énergie qui ont pris une place considérable ces derniers temps. Avec, pour en débattre, Xavier Piechasik, le président de RTE, notre réseau public de transport de l'électricité, et Cécile Duflot, ancienne ministre, ancienne responsable des écologistes en France. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
France Inter, l'écho de l'été, Dominique Seux.
Alors, bonjour Xavier Piechasik.
Bonjour
Comme
Dominique.
Comme d'habitude, je vais d'abord avoir un certain nombre de questions pour vous, pour mon premier invité, puis Cécile Duflot échangera avec vous en apportant son propre point de vue dans environ 10 minutes seulement. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce sujet ? Eh bien, parce que l'énergie est au croisement de plusieurs enjeux contemporains, le court terme avec la guerre en Ukraine qui a coupé le robinet du gaz russe, et aussi un certain nombre de difficultés immédiates du parc nucléaire. Et puis, il y a le moyen et le long terme avec le modèle de production électrique qu'il faut inventer pour décarboner l'économie, en clair, le remplacement des centrales à gaz par des énergies renouvelables ou et du nouveau nucléaire. Xavier Piechasik, vous présidez donc RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité français, depuis quasiment jour pour jour 3 ans. Vous y travaillez depuis 2015, vous y travaillez un petit peu auparavant. Vous avez aussi travaillé à Matignon et à l'Élysée. Est-ce que vous pourriez d'abord, en quelques phrases, nous expliquer le métier de RTE, qui n'est pas forcément très connu, qu'on confond parfois avec Enedis, avec EDF, et puis aussi nous dire, eh bien, au fond, nous décrire le système de production électrique français, combien il y a de centrales nucléaires, combien il y a de centrales à gaz, à charbon, combien il y a d'éoliennes et combien de champs de panneaux photovoltaïques.
Alors RTE, ça s'occupe du transport d'électricité en France, et en fait cette entreprise a trois grands rôles, trois grandes missions. La première, c'est d'être un gestionnaire d'infrastructures. On a 100 000 km de lignes, presque 300 000 pylônes, donc c'est la haute tension, c'est les pylônes que vous voyez dans les champs, c'est notre première mission.
C'est les pylônes les plus hauts.
C'est les pylônes les plus hauts et les plus gros. Ensuite, on est responsable de l'équilibre offre-demande, c'est-à-dire qu'on est en charge de piloter le système électrique pour qu'à chaque seconde, la consommation des Français soit égale à la production, parce qu'en fait, l'électricité, elle se stocke, mais elle se stocke difficilement et c'est cher. Donc on équilibre à chaque seconde la consommation de la France avec sa production. Donc c'est notre deuxième mission.
Donc vous avez des petits boutons, vous ouvrez, vous fermez.
Voilà, c'est des gros boutons, c'est des gros systèmes informatiques, mais on fait ça. Et notre troisième mission, c'est d'avoir une grosse fonction prospective fondée sur l'économie, et c'est aussi pour ça qu'on est connu. On fait régulièrement des rapports prospectifs, et le plus gros de ces rapports, on l'a publié récemment, il y a quelques mois, quelques années, Futur énergétique 2050, qui était là pour éclairer le débat public et pour éclairer les décisions publiques. Quel mix électrique français en 2050? 2050, vous savez que c'est le moment où il faut qu'on soit neutre du point de vue de nos émissions carbone.
Et c'est effectivement, ce sont ces rapports notamment qui font la notoriété de votre institution. Oui. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, y compris dans le débat public. Hein.
Oui,
c'est incroyable, parce que c'est des sujets dont on ne parlait pas il y a 10 ou 15 ans. Je reviens à ma question aussi. Bon, le nombre de centrales nucléaires, on sait à peu près, on sait même assez précisément, donc il y en a 56. Mais les centrales à gaz en France, il y en a combien ?
Alors, il y en a pour l'équivalent de 12 gigawatts, ça fait une grosse vingtaine.
Une grosse vingtaine en France, d'accord, qui appartiennent à des opérateurs.
Alors, qui appartiennent à des opérateurs d'énergie, Engie, Total, EDF, enfin, tous ceux qui investissent dans l'appareil de production.
Donc, une vingtaine répartie sur l'ensemble du territoire.
Voilà, on a 22 gigawatts d'éoliennes, on a...
Donc, ça fait combien d'éoliennes ? 9, 10 000, c'est ça ?
Oui, un peu plus maintenant.
Un peu plus maintenant,
voilà.
D'accord.
On a un premier parc d'éoliennes offshore, qui a été inauguré il y a peu à Saint-Nazaire. Il y en aura bientôt deux autres nouveaux à Saint-Brieuc et à Fécamp qui seront mis en service cet hiver. Grosso modo, dans le mix de production français, le premier appareil de production, c'est le nucléaire. Après, il y a l'hydraulique, donc les barrages. Après, il y a les éoliennes et le photovoltaïque. Après, il y a le gaz. Et en France, il nous reste un tout petit peu de charbon. Il y a deux réacteurs tout près de Nantes, à Cordemais, et un dans l'est de la France,
à Saint-Avold.
Ça couvre moins de 1% de la consommation française, donc c'est vraiment marginal.
Il y a eu une décision gouvernementale, j'imagine, à moins que ce soit la vôtre, qui a dit ben, ça peut fonctionner. Ces deux centrales sont réactivées et elles peuvent fonctionner jusqu'à la fin 2024.
Oui, alors c'est prudent de prendre cette décision, parce que vous savez que le parc nucléaire français a rencontré un problème technique qui a été la corrosion sous contrainte, que le parc nucléaire, même s'il est en réparation, ne marche pas encore de manière nominale. Et tant que le parc nucléaire ne remarche pas de manière nominale, c'est prudent de garder en réserve ces trois réacteurs qui marchent encore au charbon. Mais c'est vraiment pour gérer l'hyperpointe et elles tourneront peu d'heures par an.
Question d'actualité, est-ce que la canicule pose un problème, a posé ces jours-ci, enfin depuis le début de l'été, des difficultés pour le système électrique français ou pas ?
Les lignes haute tension, c'est du métal, donc c'est du métal qui se dilate un peu plus quand il fait très chaud, donc c'est vrai qu'on est très attentif à ça. Il y a quelques restrictions d'exploitation sur les centrales nucléaires qui sont au bord de fleuves, lorsque les fleuves sont trop chauds ou lorsque la débitmétrie diminue, mais c'est des problèmes... C'est des questions, c'est même pas des problèmes assez marginaux. De manière générale, cet été, comme tous les étés, le système électrique se porte bien. Mmh. Et il y a beaucoup de Français qui se posent la question de la climatisation. Mais la climatisation en France, aujourd'hui, c'est 10 fois moins que le chauffage en hiver.
D'accord. On reviendra sur la question de la climatisation avec Cécile Duflot, parce que c'est effectivement, vous avez raison de le mentionner, un sujet qui est monté ces derniers jours.
Oui, absolument.
La France par rapport notamment aux autres pays. Question importante, comment va se présenter, on va sortir de l'été bientôt, l'automne et l'hiver? On sait que l'année dernière, à cette époque de l'année, vous aviez tiré, je sais pas si des signaux rouges, mais enfin des signaux quand même un petit peu alarmants, en disant on risque, peut-être pas le blackout, mais on risque des coupures. Ça ne s'est pas produit, il y a eu des économies, c'était évidemment lié à la disparition du gaz russe, des centrales, il a fallu les alimenter différemment. En cette saison-là, fin août 2023, quels sont les risques pour l'automne et l'hiver ?
Alors, l'hiver qui vient se présente beaucoup mieux. Mm-hmm. Pour trois raisons. La première, c'est que le parc nucléaire va mieux. C'est bien.
On peut faire confiance à EDF ? Je vous pose la question parce que j'ai regardé vendredi à midi, hier, il y avait 32 réacteurs nucléaires qui tournaient, il y en avait 24 à l'arrêt. Alors est-ce que c'est parce que on n'a pas besoin d'électricité ou c'est qu'ils sont encore un petit peu tangents ?
Alors ça c'est normal parce que traditionnellement le parc nucléaire s'arrête plus à l'été qu'à l'hiver parce qu'on a besoin d'électricité, surtout en hiver. Mmh. Donc lorsqu'il y a des maintenances à positionner, on les positionne plutôt au printemps, été, début de l'automne, plutôt qu'en plein hiver.
D'accord.
Donc les projections d'EDF pour cet hiver sont meilleures. Donc ça, c'est une première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que l'hydroélectricité va mieux, puisque l'an dernier, à la même époque, les barrages étaient plutôt vides. Hein, et cette année, ils sont plus pleins, donc on a plus de stock d'eau. Et cette eau, on pourra l'utiliser pour fabriquer de l'électricité quand on en aura besoin cet hiver. Et la troisième bonne nouvelle, c'est qu'entre 2022 et 2023, on a continué à faire des énergies renouvelables. La France a battu son record d'installation d'énergies renouvelables l'an passé. Elle a mis en place 5 gigawatts. C'est des éoliennes, c'est du photovoltaïque. J'ajoute enfin que les Français ont été sobres l'hiver dernier et qu'on a bon espoir et on souhaite qu'ils restent sobres l'hiver prochain.
Oui.
Et c'est la sobriété des Français qui nous a fait passer l'hiver dernier sans coupure. Il n'empêche qu'on va maintenir à flot et mettre à jour notre application EcoWatt, qui est notre bison futé de l'électricité, pour prévenir les Français 3 jours avant, au cas où il y aurait des tensions sur le système électrique.
D'accord. Finalement, l'année dernière, 2022-2023, il y a eu zéro coupure.
Il y a eu zéro coupure. Ouais.
Donc cette année, il est absolument certain qu'il n'y en aura pas.
Il n'est pas absolument certain. Il y a beaucoup moins de risques. Ça dépend in fine aussi de la météo. Vu d'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de risques.
Je voudrais qu'on parle un instant des prix d'électricité. C'est un sujet évidemment qui concerne tout le monde. Il y avait eu une hausse des prix alors de 4% une première en septembre 2021, puis une autre de 15% en février 2023, encore de 10% le 1er août de cette année, il y a quelques semaines. C'est vrai que les Français ont du mal à comprendre comment fonctionne le mode de fixation des prix. On écoute une Française, une de ces Françaises qui témoignait il y a deux semaines sur l'antenne de France Inter.
Lundi, Estelle, dans la région de Nancy, reçoit sa facture de régularisation, 3200 euros.
Les bras vous en tombent. Je vous avouerai même que j'ai eu les larmes aux yeux.
Eni, son fournisseur, a répercuté la hausse du prix de l'électricité sur son nouveau contrat au mois d'octobre. Estelle a reçu d'ailleurs un mail d'avertissement, mais son pourcentage de hausse et ses mensualités, 90 euros, n'ont pas augmenté.
Je me sens un peu piégée. On sent quand même que ça a été un peu fait exprès pour qu'on ne s'en rende pas compte tout de suite, parce que bien évidemment, si je m'en étais rendu compte tout de suite, je serais partie dès le mois d'octobre de chez Eni.
Bon, alors qu'est-ce que vous pouvez dire à Estelle qui, effectivement, est à la fois mécontente et qui a du mal à comprendre ce qui se passe?
Pour les ménages, il y a deux types d'offres. Il y a les tarifs réglementés de vente, donc ça, c'est les prix qui sont administrés par l'État. Et puis, il y a des offres sur le marché libre, où les fournisseurs font ce qu'ils veulent sur la répercussion des coûts sur la facture. Je suppose que madame, elle était dans ce régime-là.
C'est ce qu'elle dit.
La majorité des Français, ils sont au tarif réglementé de vente, donc c'est des prix qui sont approuvés par l'État, et c'est ceux-là dont vous avez dit...
J'ai signalé les hausses.
Qu'ils avaient récemment donc augmenté de 10 et de 15%. Alors ça, c'est les prix que payent les ménages. Je dois dire déjà que pendant la crise, les ménages, ils ont été protégés de l'explosion des prix, ce qui n'a pas été le cas des entreprises, qui, elles, étaient beaucoup plus exposées au prix de marché directement. Alors, ces prix, ils se forment en Europe sur un marché qui est ouvert et qui répond aux simples lois de l'offre et de la demande. S'il y a beaucoup de demandes et peu d'offres, les prix montent. Et ces prix, ils sont drivés par deux éléments principaux. Les prix du gaz, d'une part, parce qu'on utilise encore des centrales à gaz en Europe, plus beaucoup en France, mais beaucoup dans nos pays voisins. Et puis aussi par une forme de surprime des agents économiques qui ont pensé que l'hiver serait plus difficile que ce qu'on a constaté. Et donc c'est ça qui a créé une sorte de bulle de prix, honnêtement complètement délirante, puisque l'hiver dernier, il y a eu des moments où les prix ont atteint les 1000 euros du mégawattheure, ce qui était absolument délirant.
Oui, mais alors c'est ça, Monsieur le Président, qu'on a du mal à comprendre. On a vraiment du mal à comprendre les coûts de production de l'essentiel de notre système de production d'électricité n'ont pas bougé d'un iota. Il y a un petit peu qui a bougé à cause du prix du gaz, et l'ensemble des prix de tout le monde a explosé. Donc on se dit, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est assez incompréhensible.
Ça a montré quoi? Ça a montré que le fonctionnement du marché en Europe, il était adapté pour les périodes qui étaient normales, mais qui n'étaient pas adaptées pour des périodes où on traversait une crise, une guerre, où on était face à une pénurie de gaz qui allait renchérir tout
donc
ça.
Donc, faut changer le système.
Voilà. Donc, cette bulle qui était délirante, elle a commencé à dégonfler. Et les prix en Europe, les prix de gros de l'électricité, ils ont commencé déjà à dégonfler. Ils sont beaucoup plus bas que l'hiver dernier. Mais cette bulle, elle n'est pas encore complètement dégonflée. Donc, maintenant, il y a un deuxième enjeu, c'est qu'il faut qu'on réforme le marché en Europe.
Et c'est ça qui est en cours, en discussion au niveau européen. Manifestement, ça couche très difficilement.
C'est très dur, mais le gouvernement français porte une position saine qui est d'essayer, à travers ce marché, de faire en sorte qu'on rapproche les prix de l'électricité de ses coûts. Il faut qu'on arrive à rapprocher les prix de l'électricité des coûts effectifs de production. Et en France, on a des coûts effectifs de production d'électricité qui sont faibles, parce que c'est des coûts qui viennent du nucléaire qui est ancien, qui est amorti, qui fonctionne correctement, etc., et de nos énergies renouvelables, qui produisent,
dont les prix baissent.
Qui produisent de l'électricité de moins en moins cher. Donc il faut qu'on arrive, à travers la réforme de ce marché, à faire converger les prix vers les coûts. Si on arrive à faire cette réforme, ça se verra sur la facture des Français.
Est-ce que, tout dernier point, est-ce que les prix de l'électricité vont revenir au niveau de 2020-2021 ou pas?
Ça, c'est très difficile à dire, Dominique. La moyenne de ces années-là, c'était plutôt 50 euros du mégawattheure. Aujourd'hui, les prix à terme sont entre 150 et 200. Moi, je pense qu'il serait souhaitable que ça revienne dans une fourchette entre 50 et 100. ça pourrait alléger la facture des Français et surtout ça exposerait moins les entreprises à des difficultés comme ce qu'on a vu l'hiver dernier à travers les boulangeries, les PME qui avaient effectivement beaucoup de mal à sourcer leur électricité à un prix normal.
Voilà, alors voilà pour les questions que je voulais vous poser. Maintenant, je voudrais qu'on parle des questions climatiques et de l'avenir, les scénarios pour les 10 ou 30 prochaines années, puisque les investissements énergétiques sont des investissements à très long terme. Nous accueillons Cécile Duflot. Aujourd'hui, elle dirige l'ONG Oxfam, mais est surtout connue dans le débat public français comme écologiste, secrétaire national des Verts de 2006 à 2012, ministre du Logement sous le quinquennat de François Hollande, puis vice-présidente du groupe parlementaire écologique en 2015. Bonjour Cécile Duflot.
Bonjour Dominique Seux. Bonjour,
vous avez quitté la politique, mais vous continuez de réfléchir sur les questions écologiques. On va parler donc maintenant des scénarios pour l'avenir de l'électricité. Alors, une question que je vais poser à Xavier Pichézic en premier, mais vous allez immédiatement apporter votre complément et sans doute, Cécile Duflot, votre différence. On sait que les besoins d'électricité sont considérables avec les voitures électriques, avec les pompes à chaleur, pour donner que ces deux exemples, mais qui sont les exemples les plus grands publics. Comment est-ce qu'on peut quantifier ces besoins? Quels sont-ils pour l'avenir? Quels sont les scénarios?
Bon, en fait, on les a mesurés, on les a calculés. Si la France respecte ses engagements communautaires, qu'elle respecte le Fit for 55, baisser nos émissions de CO2 de 55% d'ici 2030, c'est considérable, on n'a fait que la moitié du chemin. Si on veut tenir cet objectif, et en plus atteindre la neutralité carbone en 2050, ça veut dire qu'il faut qu'on substitue notre consommation de fossiles par essentiellement de l'électricité. La France est un pays très fossile. On consomme 63% de notre énergie en fossile. C'est du pétrole et du gaz fossile. Donc, notre enjeu collectif, c'est bien de prendre ce gros paquet d'énergie fossile consommée et qu'on le substitue par des bioénergies et par de l'électricité. L'enjeu maintenant, c'est de se demander comment est-ce qu'on fait ça dans les ménages et pour les industriels, et puis comment est-ce qu'on va produire toute cette électricité? Parce que vous l'avez dit, on va en consommer beaucoup plus, et c'est souhaitable qu'on en consomme plus.
Alors, par rapport à 2023, quelle est l'évolution des besoins d'électricité en 2035?
Aujourd'hui, la France, elle consomme 450 TWh par an, et si on veut respecter notre objectif de 2030-2035, il faut que ça passe à au-dessus de 600.
Mmh. Voilà. Donc c'est considérable.
Et ça peut aller jusqu'à 750 en 2050.
Oui.
Voilà.
Donc c'est un scénario effectivement ambitieux.
C'est pas une multiplication par deux, mais enfin ça fait des pourcentages à plusieurs dizaines, plus 30 jusqu'à plus 60% d'ici 2050.
Alors Cécile Duflot, est-ce que vous partagez en tant qu'écologiste cette analyse sur le besoin d'avoir beaucoup plus d'électricité et donc il faut tout faire pour mettre ça en place?
D'abord, je trouve très intéressant le travail qu'a fait RTE et le travail sur ces scénarios, justement. Parce que ce qui est le plus intéressant, parce qu'il y en a d'autres, hein, il y a des scénarios moins électrifiés, des scénarios plus électrifiés, il y a une palette, ce qui montre bien qu'on a des choix. Il n'y a pas une sorte de fatalité ou d'obligation, mais c'est de dire que c'est possible. Ces scénarios, ils ont été publiés, si je ne me trompe pas, l'année dernière, mais avant l'hiver et avant ce moment de grande tension. Et c'est pour ça que je pense que peut-être il pourrait être vu, moi je suis curieuse d'avoir l'avis de Xavier Pichézic là-dessus, sur la capacité à la sobriété beaucoup plus importante que ce qu'on pouvait imaginer. Parce que le problème d'un scénario très électrifié, d'ailleurs d'une sorte d'impensé français, c'est de se dire, en fait on va garder tout ce qu'on fait aujourd'hui, nos climatiseurs, nos voitures, on va rouler autant, mais juste on va le faire à l'électrique. Et ça va marcher. Et ça, en fait, on sait que c'est pas vrai. On sait que c'est pas possible, à la fois en termes de matériaux, en termes de capacité électrique. Je pense que c'est très compliqué. Et en tant qu'écologiste, depuis très longtemps, on pense que ce scénario-là, c'est un scénario compliqué. Mais il nécessite du volontarisme politique. Donc moi, j'aimerais savoir comment, sans dimension contractuelle, mais comment le président de RTE infléchit les hypothèses sur lesquelles ils ont basé leur scénario en termes de sobriété. Ce qui paraît être un débat très intéressant, parce que je pense que c'est ça le plus rapide. C'est pas de construire des éoliennes ou des EPR, c'est d'économiser de l'énergie.
Alors, dans nos travaux, d'ici 2050... On a pris et on prend toujours comme hypothèse centrale que la France consomme 40% de moins d'énergie. Que ce soit du pétrole, du gaz et de l'électricité, tout mélangé.
Donc c'est déjà considérable en réalité.
C'était déjà considérable. c'était quand même essentiellement de l'efficacité, c'est-à-dire toute l'énergie qu'on ne consomme pas du fait des processus technologiques qui s'améliorent. Vous changez votre frigo, donc aujourd'hui, votre nouveau frigo consomme moins. Vous rénovez votre logement, vous consommez moins d'énergie. Ce qu'il y a de nouveau depuis l'hiver dernier, c'est qu'on a constaté ce que la France était capable de faire en termes de sobriété. La sobriété, c'est pas pareil, c'est le changement des comportements.
Ça a été quoi les derniers, moins 10%, c'est ça?
Ça a été moins 9% sur l'électricité, ouais. C'est absolument considérable. C'est intéressant parce que c'est cette sobriété qui s'est poursuivie au printemps et au début de l'été, parce que la France continue à consommer moins 8% d'électricité. Mmh. Et notre enjeu collectif, c'est que ce moins 9, moins 10, moins 8, on arrive à le faire perdurer. Et ça va être notre enjeu pédagogique dans les années qui viennent, pour l'électricité aussi.
Mais Cécile Dufaux vous dit, moins 9, moins 10, ça va pas du tout, c'est pas assez.
C'est moins 9, moins 10 en plus de l'efficacité, mais on est déjà dans une logique où on consomme globalement moins d'énergie. Après, il est vrai que plus nous serons sobres, plus ce sera facile de faire la transition. C'est
convaincu,
sûr.
Mais,
alors moi, quand on dit on a fait la moitié du chemin, en fait, on a fait la moitié du chemin assez naturellement. Ça a été dit exactement dans ces termes à votre micro, si je me trompe pas, par Jean Covici. On l'a pas fait de façon volontaire, en se disant, par exemple, est-ce que on peut ne pas utiliser là de l'électricité alors qu'on l'utilise. Et typiquement, et je pense que c'est important, mais je vais y revenir pour la question de l'exemplarité, les écrans publicitaires, est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que c'est absolument nécessaire? Non. Je pense que se poser la question de la sobriété, c'est justement se dire qu'est-ce qui est le plus indispensable et qu'est-ce qu'on peut enlever sans que ça nous peine. C'est exactement ce qu'on fait quand on fait des économies sur son budget. Moi, qui suis quand même écolo depuis très longtemps, j'ai une maison dans laquelle j'ai un gros frigo avec un congélateur. Et puis je me suis dit, bon là, on garde que des petits trucs, je vais brancher le petit frigo qu'on avait. En fait, ce petit frigo, grâce à mon compteur qui me dit, il consomme 4 fois plus que le gros frigo. Mais c'est intuitivement pas très simple à piger qu'un petit frigo peut consommer plus qu'un gros frigo. Autre chose, c'est très utile parce qu'on a un problème de production d'électricité, notamment, mais aussi de pic. Ce qu'on a le risque cet hiver, quand on a dit attention, parce que peut-être vous allez plus avoir d'électricité, c'est qu'on a un moment où tout le monde demande de l'énergie. Ce qui pose d'ailleurs la question de changer tous les usages. Si on bascule tout vers le chauffage, et notamment s'il y a des demandes d'électricité pour du chauffage de façon massive, ce qui est déjà le cas en France, là, en hiver, on n'est pas loin du blackout. Donc, ça pose la question du mix énergétique et notamment la question du gaz.
Donc, vous dites qu'il y a des dizaines d'exemples très concrets ou des économies de la sobriété nettement supérieures aux 9-10%.
Est-ce que ça vous poserait un problème que quelqu'un décide à votre place entre 18h et 7h du matin à quelle heure démarre le lave-vaisselle? Est-ce que si on peut, il y a plein de lave-vaisselle qu'on n'arrive pas à programmer pour marcher la nuit.
RTE devrait piloter le déclenchement des lave-vaisselle, des rechargements de voitures, des frigos et autres.
C'est pas RTE, mais il pourrait nous dire. Il pourrait me dire, voilà, là, franchement, si vous pouvez attendre 2 jours pour faire votre lessive, ce serait sympa.
Eh bien, écoutez, on va avoir la réponse du président de RTE.
Parce que j'ai encore un autre truc encore plus.
Dans quelques secondes après la pause musicale que nous avons la chance d'avoir au milieu de cette émission et qui est lancée maintenant. Si vous êtes au volant, soyez bien sûr prudents.
Qu'est-ce qu'on est beau sur la photo? Qu'est-ce qu'on est beau sur les réseaux, chérie? T'as vu les gens comme ils sont jaloux de nous? Tous mes biens sont les tiens, et tous tes biens sont les miens aussi. On a tout pour aller bien, mais les biens ça fait pas tout du tout. Je me demande pourquoi on est encore ensemble, nous deux. Non, c'est même pas vraiment. Oui, toi et moi, on devrait peut-être s'arrêter là. C'est mieux, vu qu'on s'aimait pas vraiment. Qui sont bizarres, tu crois vraiment à leur histoire, toi? Moi, je crois pas que ça va faire long feu. J'avoue, bientôt ça fera 5 ans, mais ils font de la peine à voir, non? Je crois pas qu'un jour ils s'échangeront leurs vœux. Je me demande pourquoi vous êtes encore ensemble, vous deux. Non, c'est même pas vraiment. Oui, lui et toi, faudrait peut-être s'arrêter là. C'est mieux, vous vous aimez pas vraiment.
dans la peau, je l'ai dans mes pensées. Mais bien sûr, je voudrais l'épouser. Ben justement, je devais lui dire mardi. Genou à terre, j'allais la demander. Avant que je l'ouvre, elle s'est excusée. J'étais tellement choqué quand elle m'a dit. Je me demande pourquoi on est encore ensemble. Nous deux, non, je ne sais même pas vraiment. Oui, toi et moi, on devrait peut-être s'arrêter là. C'est mieux, vu que je t'aimais pas vraiment. Je me demande pourquoi on est encore ensemble. Nous deux, bah on ne sait même pas vraiment. Oui, toi et moi, on devrait peut-être s'arrêter là. C'est mieux, vu qu'on s'aimait pas vraiment.
C'était pas vraiment par Stromae.
L'écho de l'été, Dominique Seux, sur France Inter.
Et nous retrouvons Xavier Pichazic et Cécile Duflot, toujours pour évoquer les sujets énergétiques. Nous vous avons quitté, Cécile Duflot, il y a un instant. Vous nous disiez qu'il faudrait que quelqu'un, quelque part, pilote le déclenchement de nos lave-vaisselles, de nos lave-linges, pour faire des économies d'énergie. Non, je caricature un petit peu, nos auditeurs vous ont bien entendu. Que dit Xavier Pichazic là-dessus? Et je rajoute, moi, une question. La climatisation. On voit bien qu'aux États-Unis, et notamment en Asie, elle progresse de manière fulgurante en Asie. Aux États-Unis, c'est depuis toujours. L'Europe, il y a 20% des logements qui seraient climatisés en France, ai-je lu. Est-ce que c'est une voie d'avenir ou c'est une voie catastrophique?
Alors déjà, moi, je crois qu'il faut guider les Français.
Voilà. Bah, il faudrait, la meilleure manière de les guider, c'est quand même d'avoir des tarifs plus réduits. Aujourd'hui, il y a le jour, la nuit, mais enfin, on peut avoir des périodes de la journée où les tarifs sont plus réduits. L'écart, aujourd'hui, il n'est pas considérable hein, entre les tarifs réduits et le tarif plein.
Alors absolument, c'est un enjeu. L'enjeu, c'est de mieux différencier les heures pleines et les heures creuses. Hein, c'est que ce soit plus visible. Mais moi, je crois qu'il faut d'abord les informer et les inciter et les remercier à ce qu'une machine à laver soit lancée au bon moment. Par exemple, au moment dans la journée où on a une production en France d'électricité complètement décarbonée à 100%. Et ça, donc, on le fera dans les semaines qui viennent. La climatisation en France, c'est un peu plus de 1% de la consommation nationale. Donc, c'est pas beaucoup. C'est presque marginal. Et dans les projections qu'on a faites d'ici 2050, même en intégrant les scénarios du GIEC, certes, le poste climatisation, il augmente, mais il n'est pas déterminant dans la consommation.
Cécile Duflot, où est-ce que vous en êtes sur le nucléaire? Alors, vous avez quitté les partis écologistes, vous avez quitté la politique, mais aujourd'hui, quand vous voyez la façon dont fonctionne l'Allemagne, qui a fait une transition sur les énergies renouvelables, mais qui en réalité fait tourner les centrales à charbon à fond, vous voyez la France, dont les émissions de gaz à effet de serre par kilowattheure produit sont quand même beaucoup, beaucoup plus faibles grâce au nucléaire. Est-ce que vous vous dites, au fond, pendant 20 ans, j'ai eu tort sur le nucléaire?
Alors d'abord, c'est peut-être parce que vous m'avez pas forcément bien écouté, mais parce qu'en France, on aime bien dire on est pour ou contre. D'ailleurs, sur le nucléaire, on va dire est-ce que vous êtes pour ou contre? Moi, pour être très franche avec vous, je suis agnostique sur le nucléaire. Je suis une écologiste très inquiète parce que la situation va plus vite, parce que toutes les études des derniers scientifiques montrent que les conséquences du dérèglement climatique, elles vont plus vite que même les scénarios pessimistes d'il y a 10 ans. Donc comme je connais les scénarios pessimistes d'il y a 10 ans, je suis pas rassurée. Pourquoi je vous dis je suis agnostique? Parce que de toute façon, la France, et ça a été décidé d'ailleurs pas démocratiquement il y a très longtemps.
Mais vous étiez déjà agnostique quand vous étiez à la tête des Verts?
Oui, et c'est parce que ma position sur le nucléaire, c'est pas parce que ça me dérange qu'on agite des atomes. Par ailleurs, je disais que l'EPR, ça allait pas marcher. Si vous vous souvenez, on avait fait un accord il y a plus de 10 ans en disant qu'on ne serait pas dans un gouvernement qui inaugurait l'EPR. Même moi, je ne pensais pas qu'on aurait pu refaire un accord 5 ans après qui dirait la même chose. N'importe quel projet industriel qui serait autant en retard, qui aurait autant vu son prix exploser, il serait quand même sacrément mis sous le boisseau. Moi, ce qui me gêne avec le nucléaire, c'est la dimension idéologique et le fait qu'on puisse un peu croire que c'est un doudou. C'est le doudou, on a le doudou nucléaire et donc on va être sauvé. Ben non, c'est pas vrai.
Mais pratiquement l'un et l'autre. Et il faut lancer 14 EPR.
C'est pour ça qu'il faut réfléchir, et c'est ça qui est intéressant dans les scénarios de RTE, c'est qu'il y a un scénario très très renouvelable. Il dit que ça a des grosses implications en termes de stockage et en termes d'installation. Est-ce qu'on est prêt à les prendre? La deuxième chose, c'est que le nucléaire, maintenant, il va falloir encore le revisiter avec deux choses. Un, les impacts du dérèglement qui sont plus rapides. Comme il faut rafraîchir des centrales, elles sont soit au bord des rivières, qui risquent d'être à sec, enfin des fleuves, soit au bord de la mer, qui monte et avec des vagues très importantes. Donc la question sûreté, elle se pose peut-être de manière différente. Et je rajoute une couche, avec la situation au Sahel, et notamment ce qui vient de se passer au Niger, notre approvisionnement en uranium. Alors l'AIE a dit que l'approvisionnement en uranium à court terme, c'est-à-dire 2040, je parle sous le contrôle d'un ingénieur, était sécurisé. 2050, 2060, 2070, on ne sait pas. Et si c'est 2040, nous, nos premières nouvelles centrales nucléaires, elles sortiront en 2035. Ce qu'on doit faire, c'est d'ici 2030, Xavier Piechagic l'a dit. Donc je dis, en fait, s'il faut faire des trucs d'ici 2030 et que de toute façon, même mettant le pied sur l'accélérateur, on n'a pas de solution nucléaire avant 2035 et en plus avec une incertitude sur l'approvisionnement, est-ce qu'il n'y a pas d'autres trucs à faire ?
Sur les renouvelables.
Mais est-ce que si aujourd'hui...
Il y a un trou probablement jusqu'en 2035.
Exactement. Et je termine juste. C'est ça mon plus gros reproche. C'est que on a freiné le développement des renouvelables en France avec un truc un peu hypocrite. Avec ensuite en remontant des gens autour de la question du paysage. Moi, j'adore la France. J'adore les paysages et je déteste qu'on les abîme. De la même manière, je suis sensible au patrimoine et je pense qu'il faut faire attention dans les rénovations thermiques, etc. Mais il faut qu'on arrive à ajuster les avantages et les inconvénients et que cette question de l'approvisionnement, moi, le vrai sujet. Ce serait comment, et on l'a vu avec la Russie, comment on est vraiment indépendant énergétiquement.
Xavier Piechagic, est-ce qu'il y a un trou d'ici 2035 avec des renouvelables qui progressent mais peut-être pas suffisamment vite pour couvrir les besoins d'électricité dont vous parlez et un nucléaire neuf qui ne sera pas encore là ?
Alors déjà, Dominique, je voudrais vous dire que la France s'est frappée d'une pathologie. C'est de passer son temps à polémiquer sur le nucléaire versus les éoliennes. Oui. Ce n'est pas la première question à se poser. La première question à se poser, c'est qu'on consomme 63% d'énergie fossile. Comment est-ce qu'on arrête de consommer ces 63% d'énergie fossile qui sont, je le rappelle, des énergies qui sont toutes importées, qui sont produites dans des pays qui ne sont pas nos alliés et qui coûtent à la France tous les ans entre 50 et 100 milliards d'euros. C'est ça le premier sujet.
Je suis d'accord.
Donc ça, c'est bon pour le climat, c'est bon pour la balance commerciale, c'est bon pour notre souveraineté, c'est bon pour tout le monde. Commençons par débattre de ça. Et donc pour ça, il faut qu'on électrifie progressivement. Alors c'est vrai qu'après, il y a différentes échéances. Vous l'avez dit, d'ici 2035...
Est-ce qu'on a un trou dans la raquette ? C'est ma question très simple.
Il n'y a pas d'autre solution que de faire des énergies renouvelables. Je le dis depuis plusieurs années, il faut faire des énergies renouvelables le plus vite possible, c'est sans regret. De toute façon, d'ici 2035, il n'y aura pas de nouveau nucléaire. Donc d'ici 2035, il faut maintenir le parc nucléaire existant et faire en sorte qu'il produise le plus possible, et faire des énergies renouvelables le plus vite possible. Entre 2035 et 2050, c'est un peu une autre histoire, parce que là, il y a eu le choix politique de faire des nouveaux EPR. Ça, moi, je trouve que c'est un choix politique, c'est un choix parlementaire.
Mais vous y croyez ou pas ?
C'est un choix souverain, oui.
Sachant que Flamanville n'a pas encore démarré.
Oui. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Mais c'est pas parce qu'on
c'est
décide...
C'est si Duflo rit ou sourit, je ne sais pas très bien comment il faut dire.
On se retrouvera dans 10 ou 15 ans et
j'adore,
on verra.
J'adorerais ça, mais il ne peut pas dire autre chose. Donc c'est pour ça que je souris, parce que je connais sa fonction, il ne peut pas dire autre chose.
Ah ça, c'est un procédé rhétorique classique. Vous dites, il est prisonnier de sa fonction,
c'est pour ça qu'il dit,
avec quoi je ne suis pas d'accord.
Il n'est pas prisonnier de sa fonction. Je ne sais pas ce qu'il pense à titre personnel, mais en tout état de cause, le président de RTE au micro de France Inter ne peut pas dire que le super plan du président de la République, c'est de la daube. C'est impossible, Dominique.
Je répondrai juste après, Dominique.
Voilà. Donc, ça n'est pas grave. Et c'est bien que des gens respectent leurs fonctions. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour ça. Mais je pense que ça, il l'a dit, et je suis d'accord, la priorité, là, c'est les renouvelables. Qu'on aime le nucléaire ou qu'on n'aime pas le nucléaire, aujourd'hui...
Que ce soit en mer ou sur terre. Il faut beaucoup plus de renouvelables,
et il faut se poser
même
la question
si c'est
de
intermittent.
Comment. Il faut se poser... Exactement. Il faut se poser aussi la question de la réponse à l'intermittence. Moi, je la trouve intéressante. Elle est par le pilotage. Si effectivement on me dit, bah là, il y a du vent, lancez votre lave-vaisselle, ou je vais vous répondre de façon très pratico-pratique. Je vais faire Madame Ploum Ploum. Moi, j'ai le choix entre faire une quiche, 30 minutes de four, ou faire une salade de tomates. Si on me dit, bah en fait, c'est mieux si tu utilises le four demain, bah je ferai la salade de tomates plutôt le jeudi et la quiche le vendredi. Ça va vous sembler rade et pâquerette, mais la question, elle est importante parce que les effets d'échelle, si on change des comportements de façon massive, sont considérables. Le plus gros gisement d'économie d'énergie, c'est effectivement de faire baisser le chauffage. Et c'est pas le débat sur la climatisation. Si on fait baisser le chauffage, il faut expliquer aux gens qu'est-ce que ça veut dire. Bah par exemple, il y a une réponse simple. En hiver, si vous êtes chez vous sans un gilet, c'est que vous chauffez trop.
J'aimerais vous faire réagir tous les deux à Arnaud Montebourg, qui s'est exprimé devant la commission parlementaire d'enquête sur la catastrophe énergétique française. C'était le titre de cette mission. On écoute Montebourg et vous réagirez très brièvement tous les deux.
Pour moi, c'est un accord de coin de table. C'est-à-dire qu'on s'est mis d'accord sur un marqueur politique avec, de manière à marquer les esprits et on s'est retrouvé avec un programme qui expliquait qu'il fallait fermer 24 réacteurs. Et après, eh ben, vogue la galère. On nous demandait de fermer les centrales à charbon, mais on savait que si on fermait des réacteurs nucléaires, il se passerait exactement ce qui s'est passé en Allemagne, c'est qu'ils ont réouvert, ils ont fermé 11 centrales nucléaires, Madame Merkel, et ils en ont rouvert 10 centrales à charbon et au gaz en même temps.
Voilà, Cécile Duflot, c'est vous qui étiez aux manettes à ce moment-là. Est-ce que ces accords conclus avec le François Hollande ont été finalement catastrophiques rétrospectivement ?
Je vais vous dire, si on l'avait tenu, on ne serait pas encore au temps de fermer les réacteurs, mais on aurait développé massivement et beaucoup plus le renouvelable parce qu'on n'aurait pas eu le choix. Le fait de s'être enlevé cette contrainte, ça a fait qu'on a laissé filer le truc. Et laisser filer le truc, c'est que la France est le pays le plus en retard d'Europe sur le développement des renouvelables. Je vous dis parce qu'on a un doudou, on se dit c'est pas grave, on a le nucléaire. C'est presque psychologique. Et d'ailleurs, quand j'entends Arnaud Montebourg, je l'ai entendu sur d'autres choses, il y a une forme de nostalgie chez certains dirigeants politiques pour la France pompidolienne de « on va avoir le Concorde, le Minitel et le nucléaire, youpla, on est des champions. » Mais en fait, ça ne marche pas. Et ce qu'il nous faut là, tout de suite, c'est rattraper le retard sur le renouvelable. C'est ça la priorité.
Il y avait la partie Xavier Pichazzi, et ce sera le mot de conclusion pour vous. Est-ce que l'Allemagne est un modèle ou n'est pas du tout un modèle ou est un repoussoir, au contraire ?
Repoussoir, je ne sais pas. Ce n'est pas un modèle en matière de production d'électricité, c'est sûr.
Sur le plan climatique.
Et c'est pas sur la question nucléaire, c'est sur le plan climatique. La production d'électricité en Allemagne, c'est 8 fois plus d'émissions qu'en France.
Vous avez raison, j'ai regardé. Hier, à l'heure du déjeuner, c'était 50 grammes de CO2 par kilowattheure produit en France, 500 ou 600 en Allemagne.
Alors, ça dépend des jours, mais en moyenne, c'est x7, x8... 93% du mix de production d'électricité en France est décarboné. En Allemagne, c'est un peu plus de 50%. Donc on ne va pas suivre l'exemple des Allemands et on ne va pas faire tourner des centrales à la limite et au gaz naturel. C'est pas sérieux. En France, nos prédécesseurs ont construit le parc nucléaire. Profitons-en, il est décarboné. Mais ce n'est pas parce qu'il faut qu'on en profite et qu'il est décarboné que c'est l'unique réponse à la sortie des fossiles. Nous avons démontré qu'il fallait de toute façon faire aussi des énergies renouvelables. 100% d'énergie renouvelable ou pas, c'est un débat qui relève du Parlement. Mais de toute façon, le seul nucléaire français d'ici 2050 ne suffira pas. Moi, mon message, c'est arrêtons de nous envoyer des réacteurs et des éoliennes à la figure. Occupons-nous des ménages. Essayons de faire la transition énergétique avec les Français. Il faut qu'on les aide. Ils ont besoin d'aide. Il faut qu'on leur trouve des solutions. Et donc, aidons-les à se décarboner eux, pour qu'on sorte de cette France fossile d'abord.
Voilà, merci à vous deux. C'est la fin de cet écho de l'été. Merci à notre réalisateur Stéphane Combe, à la technique Denia Bessangaré, à la recherche de son Laura Dumaez. Et vous pouvez retrouver cette émission et les 8 autres qui l'ont précédée sur le site L'écho de l'été sur franceinter.fr. Bonsoir.